Donc, allons dans la parole du Seigneur, si vous me le permettez. Je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 89. Le psaume 89, je vais aller du verset 1 à 9. Un psaume de David, donc « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Car je dis la bonté de tes fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux, j'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Seigneur, merci encore une fois pour le partage de ta parole ce matin, Seigneur, et je te prie que tu puisses me donner les mots afin que je puisse bien m'exprimer, Seigneur, devant ton assemblée, mais aussi, Seigneur, donne-nous un cœur qui te soit ouvert, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole, comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous faire comprendre. Donne-nous, Seigneur, la joie de ta présence parmi nous, Seigneur, et viens nous visiter, Seigneur, d'une façon tangible. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Donc, le titre du message, je l'ai interprété, « Dieu Tout-Puissant, El Shaddai ». Et il y avait cette petite histoire qui disait qu'après une assemblée, le pasteur s'en va à la sortie de l'église et puis les enfants d'école du dimanche sortaient de cet enseignement-là et il prend un des jeunes et dit « Puis, est-ce que tu as aimé l'école du dimanche? » Et le jeune dit « Certainement, j'ai aimé l'école du dimanche. » Et il dit, « Est-ce que tu es capable de me dire avec la leçon que tu as eue ce matin, si il y a quelque chose que le Seigneur peut faire pour toi, et si tu me donnes une chose, ben je vais te donner cette pomme. » Donc, le jeune garçon regarde le pasteur, et il dit, « Oui, mais il dit, moi j'ai une autre question pour vous. » Il dit, « Si vous me dites une chose que Dieu ne peut pas faire, je vais vous donner un panier de pommes. » Donc, vous voyez comment est-ce que des fois, les jeunes reçoivent la parole et comment on peut limiter le Seigneur. Souvent, on se dit, « Ah, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire dans ma vie? Est-ce que tu peux transformer telle et telle chose dans ma vie? » Vous savez, le Seigneur peut tout faire dans la vie de tout le monde, à sa façon à lui, en son temps à lui. Et dans la vie, ce qui est difficile pour un humain, c'est d'attendre le temps du Seigneur. Nous, on est dans un temps qu'on est tout est rapide. On n'a pas le temps de cuisiner, on met ça au micro-ondes. Faut se dépêcher vite, on va ici. Nous, on n'a plus d'enfants à la maison. J'ai deux enfants, 5 petits-enfants. Mais je vois mes enfants aller présentement, puis il faut qu'ils se dépêchent. Le cours de danse, le cours de ci, le cours de ça, sont toujours à bout de souffle. Mais le Seigneur, lui, on le prend pas au dépourvu. Le Seigneur, lorsqu'il nous regarde dans notre vie, puis nous arrive, mettons, une embûche quelconque, il fait pas « Oups, j'avais oublié celle-là ». Le Seigneur le sait déjà, lui, ce qui va arriver. Et dans ma vie, personnellement, ce qui a été difficile à comprendre, c'est d'attendre le temps du Seigneur, d'être patient dans le temps du Seigneur, puis de réaliser quand il fait toute bonne chose en son temps. Donc, tous cherchent à regarder afin de découvrir celui qui pourra répondre à leurs besoins. Il y a des gens qui sont encore convaincus aujourd'hui que Dieu peut agir. Il y a des gens qui, en tout cas dans notre pays, qui disent que Dieu c'est une machination, ça n'existe pas, c'est des hommes qui ont mis cette chose-là dans la tête des gens. Mais beaucoup aimeraient voir Dieu agir dans leur situation. Et on se rappelle dans l'Ancien Testament comment Dieu a agi dans la vie d'Abraham lorsqu'il a donné un fils à Abraham. Et on connaît tous un peu l'arrière-plan de cela, c'est qu'Abraham, même s'il était appelé de Dieu, même s'il aimait son Dieu, n'était pas, il voulait pas attendre lui. Il se disait, à mon âge, je suis plus en moyen d'avoir un enfant, ou si j'ai les capacités d'avoir un enfant, c'est maintenant ou jamais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a précédé, si vous voulez, ou il s'est avancé sur le plan de Dieu. Et puis, on connaît l'histoire d'Abraham. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Mais Dieu, en son temps, à l'âge de 99 ans, il lui a donné un fils. Et vous savez, comme moi, mon âge, à 71 ans, le Dieu me donne une église, chose que j'aurais jamais pensé parce que je me voyais beaucoup plus sur le côté de la retraite. Dieu m'a donné quelque chose d'autre. Et puis, vous savez que c'est pas une tâche du tout pour moi de le faire. Parce que le Seigneur me montre que c'est son église, c'est lui qui va la faire grandir comme il veut. Il va nous donner les capacités. Il donne les capacités à votre pasteur, à son épouse. Des fois, humainement parlant, on dit nos capacités sont limitées. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse prendre confiance en lui. Donc, il y a 5 points brièvement que j'aimerais toucher ce matin. Réaliser que tout est possible avec Dieu. Au verset 5, « J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Lorsqu'on lit ce psaume-là de David, c'est difficile de s'imaginer toute la vie que David a dû vivre. On sait qu'il a passé la royauté à son fils Salomon. Et on voit comment, à travers les rois Israël ou de Juda, comment il y en a qui ont été fidèles et comment ils ont été infidèles aussi. Mais Dieu donne une promesse ici. « J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » Savez que nous sommes dans la perpétuité. Le trône de David a continué à grandir jusqu'à temps que Jésus vienne sur cette terre, se donner lui-même, afin qu'on puisse être sauvé et être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le message que les gens doivent entendre un peu partout dans nos villes, dans nos assemblées. Imaginez-vous si Dieu était découragé de la façon que David a agi. Vous connaissez l'histoire de David. David, c'est un vaillant guerrier, mais David n'a pas été nécessairement le père de famille le plus modèle, disons, si on regarde à son histoire. Mais Dieu lui avait promis, il dit, jamais je vais manquer à ta postérité, je vais toujours mettre un roi en place. Et Dieu, en son temps, va mettre les pions en place afin que l'on puisse avancer de gloire en gloire, de grâce en grâce, davantage avec le Seigneur. Il veut que l'on puisse reconnaître qui il est. Dans le livre de Job, on voit au chapitre 42, vous connaissez certainement, verset 2, il dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Job, si vous regardez au début de sa vie, c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un homme qui était fidèle à Dieu. Mais il y avait une chose que Job avait pas vue encore, et lorsqu'il a tout perdu, Job était capable de confesser, il dit, « J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Personnellement, je crois que nos églises aujourd'hui, à travers la chrétienté, à travers le monde entier, c'est de voir Dieu agir. C'est de voir Dieu qui il est exactement. C'est de voir comment Dieu va agir dans une situation de cancer. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a 2 ans à passer, j'ai été diagnostiqué avec un cancer. Donc, pour moi, être un cancer, c'était pas nécessairement un échec, mais c'était quelque chose qui était difficile. Et d'urgence, j'ai été opéré. Et pendant 30 jours, j'étais assis chez moi, dans une chaise où je pouvais absolument pas bouger. Et puis, d'attendre la guérison, d'attendre le feu vert. Et je dois vous avouer que, dans ces 4 semaines-là d'inactivité, je me demandais un jour si j'étais pour retourner sur le marché du travail, je me demandais si un jour j'étais pour retourner même au ministère. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu m'a guéri, et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai plus aucune trace de cancer, c'est chose du passé. Dieu m'a complètement guéri. Oui, j'ai un rappel à tous les ans, tous les 2 ans pour vérifier que tout va bien. Mais Dieu est bon. Mais vous savez, lorsque j'ai eu ce temps assis chez moi à rien faire, je pense que c'était la chose la mieux que Dieu pouvait faire dans mon cas, moi. Parce que je suis un go-getter. J'étais quelqu'un qui veut toujours, autant mon emploi, autant dans le ministère, c'est avancer, avancer, avancer. Et le Seigneur, ce qu'il m'a montré, il dit, écoute, il faut que tu apprennes à diminuer un peu ta capacité intellectuelle ou physique d'accomplir, parce que le Seigneur m'a donné une bonne santé, et peut-être d'investir plus de temps à me connaître davantage. Et celle-là, j'y avais jamais nécessairement pensé ou réfléchi. Parce que pour moi, être en action, c'était ma vie. Même dans le ministère, toujours être en action. Mais Dieu m'a montré des choses extraordinaires dans ce mois-là où j'ai été capable de comprendre. Il m'a dit, Seigneur, je te remercie que tu viennes me parler dans mon salon chez moi lorsque je suis même pas capable de sortir à l'extérieur. Et je te prie que tu puisses me donner la sagesse d'agir selon ta direction à toi et afin que je puisse t'obéir, comme je disais dans 1 Samuel 15, 22, hein, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, c'est pas le nombre de choses qu'on fait pour le Seigneur qui est important. C'est l'obéissance qu'on porte à sa parole. Lorsque j'étais au collège biblique, un de mes professeurs m'a dit, vous savez, c'est pas le nombre de versets que vous connaissez par cœur qui est important. C'est le nombre de versets que vous mettez en application dans votre vie qui est important. Et trop souvent, on va meubler notre pensée. Je dis pas qu'il faut pas meubler sa pensée de versets, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois, on connaît tellement de choses comme ça, puis on prend pas le temps de s'arrêter deux minutes de dire, est-ce que je comprends ce que le Seigneur veut me montrer? Est-ce que je réalise les choses qui doivent être changées dans ma vie? Donc, vous savez, donc comme le premier point, je vous disais que tout est possible avec Dieu. Donc, peu importe ce que vous êtes ce matin, peu importe ce que vous vivez, peu importe que vos dernières années, même dans la chrétienté, ça a été un fiasco, vous n'êtes pas content, ou peu importe ce qui s'est passé, tout est possible pour Dieu. Vous pouvez ressortir maintenant, d'ici, avec une feuille blanche, de dire « Seigneur, me voici ». Et agis dans ta vie à ma guise. Deuxième point, c'est rien de compliqué aussi pour Dieu. Dans le psaume 89, le verset 6, « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité de l'assemblée des saints. » Dieu est fidèle. Au psaume 25 et le verset 10, la parole nous dit, « Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, » Souvent, on est porté à douter de la fidélité de Dieu, tout simplement parce qu'on n'est pas nécessairement fidèle à ce qu'il nous demande de faire. Et lorsqu'on fait le contraire de ce qu'il nous demande, vous vous souvenez de Jonas? Jonas, c'était pas compliqué, Jonas. Il avait simplement à aller là où Dieu lui demandait d'aller parce qu'il voulait lui faire vivre un réveil. Mais Jonas a été ailleurs. Et savez-vous quoi? Au lieu d'avoir un voyage à l'endroit où Dieu l'envoyait, il s'est payé un voyage. Il a été rejeté par les gens du bateau, il a été rejeté à la mer. Donc, lorsque nous comprenons la fidélité de Dieu, lorsque nous sommes convaincus qu'il va agir dans notre vie, peu importe les circonstances, mais Dieu va nous démontrer sa fidélité. Et sa fidélité ne se vis pas dans une journée, un mois, deux mois. Il y a des choses que dans le ministère que j'ai vu, moi, plusieurs années après avoir été au ministère. Parce que je dois vous avouer, comme jeune prédicateur, l'orgueil peut s'envahir de nous. On peut s'imaginer que telle chose va se réaliser parce qu'on est capable de le faire, on a les capacités de le faire. Pour moi, je me disais, pour moi, l'implantation d'église, parce que j'ai travaillé à 8 implantations d'église, pour moi, c'était quelque chose de facile d'implanter une église. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un jour, je revenais d'un voyage d'affaires de la ville de Toronto à la ville de Québec, parce qu'on avait une fin de semaine d'évangélisation, et je regardais par le hublot de l'avion, je disais, j'argumentais avec le Seigneur. Ça a été ma vie, m'argumenter tout le temps. Je disais, Seigneur, je comprends pas pourquoi tu m'envoies à Toronto, je suis un bon vendeur dans qu'est-ce que je fais. Il me semble que je perds mon temps. Je perds mon temps. Je pourrais demeurer à Québec, tu pourrais peut-être me donner une bonne église, tu pourrais peut-être faire des choses. Et j'argumentais. Et le Seigneur, savez-vous quoi, il m'a parlé sur cet avion-là. Ça a été audible pour moi. En tout cas, il m'a dit, « Mon fils, ce que tu fais là présentement, c'est pas en vain. J'ai un plan à travers cela. » Et savez-vous c'était quoi le plan de Dieu? Moi, je travaillais pour une compagnie et j'allais à Toronto, j'allais à Los Angeles, j'allais au Texas pour implanter des nouvelles succursales de vente. Donc, il y a chose que je n'étais pas capable de faire avant parce que j'étais quelqu'un qui était timide. Ça n'a pas l'air de ça, mais j'étais timide. Mais donner une facilité d'aller cogner aux portes puis de dire « Bonjour, me présente pour telle et telle compagnie. » Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Après ça, il a pris les capacités qu'il m'a données que j'avais dans le monde, si vous voulez, séculier, d'aller travailler et d'ouvrir des succursales un peu partout dans le monde, je devrais dire, mais il m'a donné cette facilité-là d'aller puis d'implanter des églises. D'avoir le goût d'implanter une église lorsqu'il y avait 6 personnes qui étaient réunies dans un salon. Les gens me demandaient, ça t'intéresserait-tu d'être mon pasteur? J'ai dit oui. OK, on commence comment? Je ne sais pas, mais on va commencer. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert les portes. On a débuté des églises. Lorsqu'on était à Belleuil, on était 12. Ma famille était là, puis on était 12. Et quelques années plus tard, on était dans les alentours de 200 personnes. 35 conversions par année sur une base régulière. Les baptêmes d'eau régulièrement. J'avais jamais pensé à cette chose-là. Et je dois vous avouer que 3 ans après que j'avais débuté cette église-là, j'étais même prêt à laisser cette église-là. J'avais téléphoné à un de mes confrères pasteurs, j'ai dit, je ne suis plus capable d'être à la charge de cette église-là parce qu'on avait un local. Au Québec, c'est pas facile les locaux. Je sais pas ici en France, là, mais nous, s'il faut s'apprendre un permis spécial et si t'es pas aimé de la mairie, ils vont donner un local, mais il y a personne qui va vouloir visiter ce local-là. Mais Dieu a pourvu qu'on puisse trouver un bâtiment, qu'on a pu bâtir, et Dieu a béni en son temps. Et c'est là qu'il m'a montré à travers ma vie qu'il était fidèle. Ce à quoi il m'avait donné il y a 5-6 ans auparavant, il mettait en place au temps ordonné, à son temps ordonné à lui. Pour possiblement que je n'en suis pas, j'ai m'orgueilli de cette chose-là, mais que je puisse continuer à entendre sa voix, puis Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Même à ce moment-là, je pensais, même j'en discutais avec mon épouse, j'ai dit, je vais être certainement là jusqu'à ma retraite. Parce que là, j'ai dit, on a une bonne église, les ministères marchent à plein, c'est extraordinaire. Et non, le Seigneur avait d'autres plans. Et 8 ans plus tard, il m'a envoyé un autre endroit, puis m'a envoyé un autre endroit. Puis là, à 71 ans, il m'envoie un autre endroit. Où ça? C'est pas une église qui a les moyens de subvenir à un pasteur, c'est une église qui a besoin d'un berger. Et pour moi, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 3e point, Dieu ne se relâche jamais. Au verset 2 du psaume 89, ça nous dit, « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Les bontés de l'Éternel. Le Seigneur ne se fatigue pas. Je pense qu'on a entendu ce matin, ses bontés se renouvellent à chaque matin. Si vous trouvez que Dieu était bon avec vous hier, mais attendez-vous à ce que Dieu va être bon encore avec vous demain. Des fois, on se pense arrivé avec le Seigneur, on se croit que on a tout reçu, et puis on reste surpris de voir, ah, le Seigneur ouvre une porte, ferme une porte, ouvre une fenêtre, et puis on avance avec lui. C'est réellement bénissant de vivre pour le Seigneur, pleinement pour le Seigneur. Frères et sœurs, je vous encourage, le seul encouragement que je peux vous donner ce matin, c'est de vivre pleinement pour le Seigneur. Donnez-vous complètement pour le Seigneur. C'est difficile de se séparer du monde parce qu'on est dans le monde. Oui, je pense qu'on doit avoir certaines connexions avec les gens pour être capable de partager ou témoigner. Mais lorsque le Seigneur vous a appelé ici à Charleville-de-Mézières, parce qu'il y a un but. Il veut faire quelque chose avec vous autres. Ça a peut-être possiblement eu des temps difficiles, mais Dieu, il ne s'arrête pas à ça. Dieu a, lui, déjà tout préparé quelque chose de nouveau pour chacun de vous. Et c'est ce à quoi je vous encourage. Quatrième point, il est tout-puissant. Au verset 9 du psaume 89, « L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Sur quoi est basée sa toute-puissance? Car sa fidélité l'environne. Donc, lorsque nous acceptons, comme nous avons vu ce matin, par la louange, et qu'on lève les mains ou qu'on élève la voix ou peu importe la façon, c'est pas nécessaire d'élever les mains ou d'élever la voix, mais que on puisse se centrer sur le Seigneur du début de la réunion, même avant. Mais Dieu est présent au milieu de nous et sa fidélité l'environne. Il va nous amener, il va nous aider à comprendre certaines choses. Seigneur, certainement ce matin, moi j'ai été béni par le temps de louange. Dieu veut faire quelque chose de spécial pour vous, aujourd'hui, cette semaine, dans les semaines à venir. Il veut se révéler à vous. Ensuite de ça, il est tout-puissant, dans Tite 1 et le verset 2, ça nous dit, « Dieu, il ne ment pas. » Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et aujourd'hui, si vous regardez les gouvernements, ce qui se passe en France et ce qui se passe au Canada, on vit sensiblement les mêmes choses. Un mois, ils disent, et l'année d'ensuite, tout est changé. C'est difficile de se bâtir une stabilité solide sur ce que nos gouvernements, les gens des alentours, nous disent ou nous promettent. Parce qu'eux n'ont pas les mêmes buts que nous. Dans 2 Timothée 2, le verset 13, ça va plus loin, il dit, il ne peut se renier. Même si on faute, parce que vous savez, même si on est enfant de Dieu, le péché est toujours autour de nous. Des fois, ça peut être une mauvaise pensée, des fois, ça peut être une mauvaise parole, des fois, on peut laisser nos yeux aller à pécher, à peu importe. Et pour plusieurs, ils disent, « Ah, ben si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, ben, tu peux être parfait. Mais si c'est votre pensée ce matin, ben je vais vous, comme on dit au Québec, je vais vous péter votre balloune, comme on dit, pouf! » Parce que c'est pas de la façon que le Seigneur veut qu'on comprenne que nous sommes toujours humains et que lui est divin. Il ne peut se renier. Pourquoi? Parce que dans Jacques 1,13, ça nous dit, il ne peut être tenté. On peut être avec quelqu'un qui peut être tenté à faire ceci, à faire cela, mais lorsque nous sommes constamment avec le Seigneur, lorsqu'on se lève le matin, on le prie, on le loue, et puis on va à l'ouvrage, et puis là on dit, Seigneur, je te prie de m'aider. C'est comme si on marche main dans la main avec lui, on s'en va pour notre emploi. Dieu, il va nous protéger parce que lui, il ne peut pas être tenté. Il a été tenté dans le jardin de Gethsémani. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Mais aujourd'hui, on a un avocat fidèle à côté de nous qui lui ne se laissera pas tenter par l'ennemi et qui peut être un support pour chacun de nous afin que nous puissions continuer à avancer, continuer à persévérer avec lui, de ne jamais se relâcher. Il est l'auteur de tout. Il accomplit tout, il nous garde, et ce qui m'encourage, on tourne ensemble dans Romains 8 et le verset 15 et 17. Romains 8, le verset 15 et 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, voyez ici, Dieu, c'est pas quelqu'un d'égoïste, n'a pas envoyé un fils qui est égoïste, il a envoyé Jésus, il dit, venez à moi, acceptez-moi dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, et nous allons être co-héritiers ensemble du royaume à venir. J'espère que vous croyez encore qu'il y a un royaume qui s'en vient. Malheureusement, je rencontre beaucoup d'enfants de Dieu où j'ai eu le privilège d'aller prêcher. Il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens, est-ce que le Seigneur va revenir? Est-ce qu'il y a une place réellement de préparer pour chacun de nous? Malheureusement, je trouve aussi que même dans des assemblées au Québec, ils ne disent de ne pas rêver à un retour imminent de Christ. Imaginez-vous, dans nos églises, des gens qui s'identifient à Jésus comme Sauveur, qui refuse cette doctrine-là. Quelle abomination! Mais si nous marchons selon nos sentiments à nous, ça peut être difficile d'accepter que le Seigneur va venir nous chercher. Mais je vous encourage, frères et sœurs, justement, à marcher davantage avec le Seigneur. Investissez du temps avec lui. Le temps que vous avez de disponible. Parce que je parlais justement avec votre pasteur comment on peut être. Lui travaille aussi, 30 quelques heures par semaine. Moi, je travaille aussi. La famille, l'épicerie. Donc, des fois, c'est pas toujours facile de concilier la vie aujourd'hui. Lorsque j'étais plus jeune, en tout cas dans notre village, nous, le dimanche, tout était fermé. J'étais pas chrétien, j'étais dans une autre religion et on allait à cette religion-là religieusement tous les dimanches. Mais il y avait quelque chose de bon en ce temps-là, c'est que lorsque on sortait de cette réunion-là, les restaurants étaient fermés, les stations d'essence étaient fermées, le théâtre, il y avait aucun sport qui était fait. Mais ce que j'ai découvert, c'est que on avait beaucoup plus un temps chaleureux en famille. Donc, lorsqu'on allait en famille, on n'avait pas ces cellulaires-là. Avez-vous remarqué une famille des années 2023? Ils sont tous assis à la même table, ils sont tous en train de se texter. J'ai resté surpris l'autre fois qu'ils se textaient, même s'ils étaient un en face de l'autre à la table. Quand même, faut vouloir. Hein? Mais dans notre temps, on n'avait pas ça. Il y a des gens qui nous disent... Les plus jeunes, ils nous disent, « Ah, mais vous, vous étiez retardés dans votre temps. Nous, on évolue. » Quand même. Mais j'aime autant être retardé un peu puis d'être tout près du Seigneur que d'être à la fine pointe de la technologie puis d'être loin du Seigneur. Donc, en conclusion, ce matin, lorsque nous aurons réalisé qui il est réellement, nous ne pourrons pas nous empêcher de l'adorer, marcher avec lui, et surtout d'espérer continuellement en sa bonté. J'aimerais vous laisser avec une parole dans Romains 4. Romains 4 et le verset 20 à 25. Romains 4, le verset 20 à 25. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous et à qui cela sera imputé et nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre propre justification.